ça vient bien puisque cette fin, puisque on termine cette longue histoire, cette longue histoire des rapports savoir-pouvoir. Et donc je vous rappelle qu'on l'a terminé sur un problème très général, mais lié à ces deux axes du savoir et du pouvoir, à savoir quel rapport y a-t-il entre les ensembles de forces et les formes. Et donc je ne reviens pas, ça c'est à moins que ce sera à vous tout à l'heure de dire s'il y a lieu de revenir sur des points. On a examiné successivement la possibilité sur une très courte période que les formes changent suivant les rapports de force mis en jeu à tel ou tel moment d'une période, de la période. Et on a vu un premier cas où les forces dans l'homme, je ne reviens pas sur l'explication des forces dans l'homme, où les forces dans l'homme entraient en rapport avec des forces du dehors, forces de telle nature que la forme qui correspondait ou qui découlait de cet ensemble de forces était ou pouvait être présentée comme la forme Dieu. Et qu'en sens, l'âge classique pense sous la forme Dieu. Bien. Ça voulait dire que les forces dans l'homme entraient en rapport avec des forces d'élévation de l'infini. Et le mouvement archéologique de la pensée correspondant à cette formation classique, nous avons essayé de le déterminer sous la forme, sous le nom de dépli, mécanisme du dépli ou du déploiement. Déploiement en tableau, en série prolongeable, en continuum. Et puis on a vu que se faisait une espèce de mutation dans le rapport des forces, coïncidant avec ce passant vers la fin du 18e et se développant au 19e. Cette fois-ci, les forces dans l'homme ne se dépliaient pas dans un rapport avec des forces d'élévation à l'infini, qui sont précisément des forces de déploiement, de dépliement, mais au contraire, elles se repliaient sur des forces du dehors, mais cette fois, force de finitude. Et cette finitude était trouvée hors de l'homme. C'était la finitude de la vie, la finitude du travail, la finitude du langage. Et que sans doute toute la configuration du savoir changeait. Ce ne serait plus l'âge de l'analyse des richesses, mais l'âge de l'économie politique. Ce ne serait plus l'âge de l'histoire naturelle du vivant, mais l'âge de la biologie. Ce ne serait plus l'âge de la grammaire générale. Ce serait l'âge de la philologie. Et à ce qu'on pourrait appeler les scientificités générales de l'âge classique, le général étant un ordre d'infinité, se substituait des scientificités fondées sur la comparaison. Le comparé se substituait au général sous forme d'une économie comparée, d'une philologie comparée, d'une biologie ou d'une anatomie comparée. Donc, à ce niveau, lorsque les forces dans l'homme entrent en rapport avec des formes de finitude, ou si vous préférez, lorsque les ordres d'infinité du XVIIe siècle, de l'âge classique, sont remplacés par les racines de la finitude. Vie, travail, langage. Eh bien, la forme sous laquelle la pensée s'exerce change. La forme n'est plus la forme Dieu, même s'il subsiste beaucoup de choses de cette forme. L'accent est mis cette fois-ci sur une forme homme spécifique. Bon. Ça, je pense que c'était, j'espère que c'était devenu relativement clair. Et on en était là. Et c'est là que je veux reprendre la question, parce que c'est un problème là dans lequel nous sommes tous, si vous le voulez bien, tous embarqués avec Foucault. C'est un point qui me paraissait délicat, compliqué, complexe dans les mots et les choses. C'est que, voilà nos enfants. Lorsque les forces dans l'homme se replient sur les forces de finitude du travail d'engage, ces forces de finitude lui imposent une dispersion. Dispersion des langues, dispersion des modes de production, dispersion des plans de vie. En d'autres termes, en même temps que la forme homme surgit, comme dérivant du nouveau rapport de force, l'homme n'existe conformément à cette forme que dans la dispersion des langues, dans la dispersion des modes de production, la dispersion des plans. D'où le texte qui nous avait frappé, page 397 des mots et des choses, qui nous dit exactement, on va très lentement, donc accepter mon rythme lent. L'homme s'est constitué quand le langage était voué à la dispersion. L'homme s'est constitué lorsque le langage était voué à la dispersion. Et un peu plus loin dans la même page, la même idée trouve une autre expression. L'homme a composé sa propre figure dans les interstices d'un langage en fragments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la dispersion des langues, trois petits points, est-ce seulement des langues? Pour le moment, le texte nous dit seulement la dispersion des langues. La dispersion des langues, qui vous comprenez, est une conséquence directe de la finitude du langage. Eh bien, la dispersion des langues est le corrélat de la forme homme. Si bien que la question d'une troisième forme, après le 19e siècle, qui ne serait plus ni la forme Dieu, ni la forme homme, va pouvoir se poser presque par nécessité logique, par enchaînement logique, de la manière suivante. S'il arrive que le langage se rassemble est-ce que l'homme ne va pas être remplacé par une autre forme en forme? S'il est vrai, comprenez, s'il est vrai que la forme homme a pour corrélat la dispersion des langues, s'il arrive pour d'autres raisons que le langage se rassemble, à ce moment-là, est-ce que la forme homme, d'une certaine manière, ne s'écroule pas? Elle connaissait sa grandeur lorsque le langage se disperse. Le langage se rassemble. Est-ce que ça ne va pas être l'évanouissement de la France? Ah. On profite quoi? On profite d'une autre. Or, Foucault montre, et c'est ce que j'avais essayé de développer la dernière fois, la thèse de Foucault, très intéressante, il semble, c'est que il va essayer de montrer que, à la fin du 19e siècle, donc la forme homme n'aura peut-être pas duré très très longtemps, qu'à la fin du 19e siècle, commence à se faire, sous l'action de nouvelles forces, un rassemblement du langage. Ce rassemblement du langage, il le présentera comme la constitution d'un maître du langage, ou d'un il y a du langage. Mais attention, il n'en fera pas une aventure de la linguistique. C'est ça l'essence. Et c'est par là qu'il s'oppose, il semble, à tout le courant qui lui est contemporain. Si le langage se rassemble, ce n'est pas au profit ni entre les mains de la linguistique. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de nouvelles forces que celles qui animaient la linguistique. La linguistique n'était pas séparable de la dispersion des langues dans la conception. Si le langage se rassemble, et par là, va déjà comme préfigurer l'arrivée d'une nouvelle forme, ce n'est pas du côté de la linguistique que se fait ce rassemblement, c'est d'un tout autre côté, la littérature. Et sans doute, la littérature comme littérature moderne n'est pas sans rapport avec la linguistique. Mais selon Foucault, ce n'est pas du tout le rapport qu'on a pu voir trop vite. Par exemple, ce n'est pas du tout le rapport que le structuralisme a pu voir quand il a cherché une espèce d'unité de la linguistique et de la littérature. Le rapport est tout à fait différent. Le rapport est un rapport, nous dit Foucault, de compensation. La littérature moderne, loin de s'unir à la linguistique, se définit comme littérature moderne parce qu'elle compense quelque chose qui grevait la linguistique. Qu'est-ce qui grevait la linguistique? C'était qu'elle trouvait sa condition dans la dispersion des langues. Donc elle ne pouvait pas atteindre un maître du langage. Vous me direz, elle pouvait atteindre, ça serait l'objet d'une discussion si vous y teniez. On me dira tout de suite, ah mais elle pouvait atteindre des composants universels. Et encore, supposons que les phonèmes soient considérés comme des composants universels. Mais c'est des composants. C'est pas ça qui semble, qui permet un rassemblement du langage ou la découverte d'un être du langage, car c'est composants n'existe dans la mesure où il s'actualise dans des langues irréductibles. Comme disait Jacobson depuis le début, il y a sans doute, si vous prenez un ensemble phonématique, vous pouvez dire que il est présent dans une multiplicité de langues. Oui, mais il ne peut pas s'actualiser tout ensemble. Une langue sera toujours définie par un système de choix dans l'ensemble des phonèmes et des traits phonématiques et des traits distinctifs. Et j'avais une seule langue, n'actualisant l'ensemble des potentialités du langage. Tandis que donc Foucault nous dit, ce qui assure et ce qui opère un rassemblement du langage ou une instauration d'un être du langage, ce n'est pas la linguistique, c'est la littérature comme littérature moderne. Et j'ai essayé de dire pourquoi Ce n'est donc pas, si vous voulez, par unité avec la linguistique que ce troisième moment, un rassemblement de l'être du langage se fait. C'est par compensation de la linguistique. C'est ça cette idée, il me semble très... On risque de passer à côté si notre linguiste, il brise, il s'oppose, si vous voulez, à ce qui était dit très couramment. Et à ce qu'Adam Abou se laisse avoir vu une espèce d'opposition. C'est encore un rapport, une opposition. Mais une espèce d'opposition linguistique-littérature. Alors, j'ai essayé, presque, j'ai risqué un peu la dernière fois, en essayant de dire en quoi, en effet, c'est bien une compensation. La littérature moderne, c'est autre chose que la linguistique. Elle opère d'une toute autre façon. Et ce que j'essayais de dire, c'était ceci. Comment la littérature moderne, qui pourtant, l'objection immédiate, c'est un rassemblement de lettres du langage, la littérature moderne, elle opère dans des langues nationales. Elle opère donc dans la dispersion des langues. Oui, mais c'est pas la question. J'ai essayé de montrer que la littérature moderne, lorsqu'il a défini ça comme grande et comme moderne, c'était une littérature qui tendait ou qui traçait à travers la langue utilisée de véritables vecteurs. Et que ces vecteurs tendaient vers quoi ? Ces vecteurs tendaient vers ce qu'on pourrait appeler, et là vous retrouvez une notion de Foucault, non pas quelque chose qui serait en dehors du langage, mais vers un dehors du langage. Ils ne tendent ni vers quelque chose qui serait dans le langage, ni vers quelque chose qui serait hors du langage, par exemple des idées dures. Ils tendent vers un dehors du langage. Ce dehors du langage, c'est ce que j'appelais les agrammaticaux. Les constructions agrammaticales, qui constituaient comme une limite du langage. Vous voyez bien la différence entre les agrammaticaux et les phonèmes. Les phonèmes sont strictement intérieurs au langage. Les idées pures, je dirais, sont censées être en dehors du langage. Mais les agrammaticaux sont des limites du langage vers lesquelles tend la variation grammaticale. Et j'avais essayé peut-être... en prenant des exemples très, très épars, très différents, que ce soit, ça pourrait se dire de Joyce, ça peut se dire de Céline, ça peut se dire de Camus, ça peut se dire des auteurs que Foucault aimait tant, de Roussel, de Brisset, bon, et bien d'autres dont je n'ai pas parlé. Même au point, quand on aura plus, on pourra revenir sur ce point, si on a connu certains d'entre vous, pour mieux asseoir cela, mais ce n'est pas mon objet pour le moment. Je dis, on voit bien là, où on prétend, on voit bien, non, on prétend vaguement, je dirais, en quoi en effet la littérature moderne opère une espèce de décrochage par rapport à la langue. Voyez, c'est pas... Foucault dit que c'est par compensation, disons juste un peu plus pour mieux marquer l'originalité de son idée, c'est par décrochage avec la linguistique que la littérature moderne constitue un être du langage. En faisant tendre le langage vers sa propre limite agrammatique. Tandis que la linguistique en restait aux composantes internes du langage. Et je vois une confirmation de cette interprétation que je vous propose dans un texte rapide de Foucault, page Les mots et les choses, page 395, lorsqu'il nous dit, pour définir cette littérature moderne, cette région informe, muette, insignifiante, où le langage peut se différer. Cette région muette, informe, c'est-à-dire non formée, non grammaticalement formée. Cette région informe, muette, non parlée, insignifiante, comprenez au sens fort, insignifiante, qui ne renvoie pas à du signifiant, où le langage peut se libérer. C'est-à-dire, en quel sens il se libère, c'est d'appréciation dans la vie. Où il est traversé de vecteurs ou de tenteurs qui le font tendre vers son propre dehors. Non pas vers quelque chose qui est en dehors de lui, mais vers son propre dehors du langage. Et quand le langage est ramené à cette région muette, insignifiante, etc., comme à son propre dehors, alors je vous dis, il y a rassemblement d'un être du langage. Tout ça, c'est comme ça. Je veux dire que c'est cela que Foucault essaie de nous faire comprendre qu'on soit d'accord. Alors, voilà. Voilà le problème où nous en étions. La troisième forme ou le troisième âge, après l'âge platonique, et l'âge humaniste du 19e siècle. Le troisième âge se définit comme, pour le moment, il se définit comme ceci. De nouvelles forces du dehors apparaissent. Et la première de ces forces du dehors, c'est l'être du langage. Se produit un rassemblement de l'être, voilà la première donnée, se produit un rassemblement de l'être du langage qui ne découle pas de la linguistique du vocabulaire. Ça, c'est une nouvelle donnée. Est-ce que cette nouvelle donnée est suffisante pour nous faire dire une nouvelle forme apparaît qui ne serait plus le Dieu du homme, mais qui serait quelque chose comme le surhomme, ça, c'est ça. Et immédiatement, je disais, et c'est là que, c'est là-dessus, je crois que notre séance aujourd'hui va s'établir, immédiatement, je disais, mais il faut développer cette idée de Foucault. Car ma question est simple, pourquoi ne pas dire la même chose des deux autres forces de signification ? La triple racine de la finitude, c'est vie, travail, langage. Ce que Foucault vient de dire, la troisième âge du langage, ne faut-il pas le dire aussi de la vie du travail et dans les mêmes conditions? Qu'est-ce que ça veut dire dans les mêmes conditions? La biologie du 19e siècle ne découvrait la forme de finitude de la vie qu'à travers la dispersion des plantes. Est-ce que, pour nous modernes, de la même manière que tout à l'heure pour le langage, est-ce que ne va pas s'opérer un rassemblement de la vie ou une découverte d'un être de la vie qui met la vie en rapport, non pas avec un dehors, mais qui met la vie en rapport avec son propre dehors? Et par là, rassemble l'être de la vie. ce qu'il ne faut pas dire encore, et aussi pour le travail. Est-ce que le travail, comme forme de finitude qui nous existait au 19e siècle, dans l'âge humaniste du 19e siècle, que sous la forme de la dispersion des modes de production, ne va pas opérer ou tendre à opérer dans notre monde moderne un rassemblement de l'être du travail qui met le travail en rapport avec son propre dehors? Est-ce qu'il ne faut pas étendre aux deux autres forces de finitude, la vie et le travail, ce que Foucault vient de nous dire pour le langage? Et est-ce qu'il ne faut pas l'étendre à la vie et au travail sous la même condition bien marquée par Foucault? À savoir, si la littérature rassemble un être du langage, ce n'est pas par alliance avec la linguistique, c'est par compensation de la linguistique. De même, si la vie rassemble un être de la vie, se rassemble en un être de la vie, ce n'est pas en alliance ou en évolution de la biologie, mais en compensation et comme par décrochage avec la biologie. Et si le travail rassemble un être du travail, ce n'est pas en alliance avec l'économie politique, mais dans une espèce de compensation, de rupture ou de décrochage avec l'économie politique. Voilà ma question. Ça, c'est ma première question. On va très très doucement. Hein. C'est encore une séance très douce. On va très très progressivement. Parce que, voyez l'avantage de cette hypothèse. Je tiens là. Je n'ai pas encore expliqué en quoi ça consisterait, cet être de la vie et cet être du travail. On a vu vaguement, et je ne demandais pas plus, hein, pour le moment, que du vaguement, puisqu'on parle de l'acte. On parle du surhomme, vous comprenez, parler du surhomme n'est pas une petite chose, encore qu'on va apprendre que le surhomme n'est pas une plus grande chose, ni que Dieu, ni que l'homme, après tout, il ne faut pas en faire une histoire. Le drame, c'est parce qu'on veut faire une histoire du surhomme. Mais vous savez, ce n'est pas une histoire, c'est un petit truc. Alors, je dis, quel serait l'avantage, avant même de savoir en quoi consiste cet élargissement de l'hypothèse de Foucault? Vous voyez qu'au moins il y aurait alors une nouvelle figure des forces du dehors. Nouvel être du langage découvert dans un dehors du langage. Nouvel être du travail, nouvel être de la vie. Je dis, ce qui rendrait cette hypothèse, il semble intéressant, c'est que si on me dit, pour rendre compte de la formation sur homme, c'est-à-dire cette forme qui n'est ni Dieu ni l'homme, il y a lieu d'invoquer une aventure du langage. Moi, ma réaction, c'est, elle est séduite d'avance, ma réaction, elle est... Mais quand même, j'ai un petit regret, je me dis, alors c'est quand même affaire de littérature. Et après tout, nous n'avons aucune raison de croire que la littérature est sa propre affaire. Je veux dire, nous n'avons aucune raison de croire que si la littérature est une chose aussi sérieuse qu'elle est, qu'elle soit comme autonome et soit une espèce de ghetto où
des avatars de la littérature ne produiraient pas aussi leurs secousses ailleurs, et la littérature ne recevrait pas les secousses ailleurs. Je vois mal une littérature qui aurait un privilège, alors que la vie n'en aurait pas, ou que le travail n'en aurait pas. Bon. Si bien que la tendance à généraliser l'hypothèse de Foucault me paraît intéressante. Du coup, nous vient un choc en retour.
Vous voyez, c'est délicat tout ça.
Il nous revient un choc en retour. C'est quoi? Et c'est pourquoi Foucault n'existe pas. Pourquoi est-ce que Foucault maintient que le thème qu'il vient débaucher, car il s'agit bien du débauche, vous voyez, les textes sont très courts, le thème qu'il vient débaucher à propos de la littérature ne peut pas être transporté à la vie ni au travail. Il nous dit, la littérature est capable d'opérer par rapport à la linguistique un décrochage qui va fonder un nouvel âge. Là, je dis c'est sa thèse à la lettre. Il ne nous dit pas, mais en même temps, la vie et le travail opèrent des décrochages en avant. Il nous le dit si peu que bien plus il dit le contraire. Il dit la vie et le travail n'ont pas le temps et ne peuvent pas le temps. Seule la littérature. Ça me trouble énormément. Car alors on dit, bon, mais il avait raison. Moi, je n'en vois que deux, du moins telles qu'elles sont données dans les mots et les choses. Les mots et les choses, c'est un très grand livre. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est un très grand livre. Il est fait de ces moments très forts, de ces moments où je ne dis pas du tout des moments faibles, ni des moments où les choses vont beaucoup plus vite, où on se débarrasse de quelque chose, etc. Au point que, dans un très grand livre, et généralement c'est la force des grands livres, on bute, et chacun de nous bute sur quelque chose, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et moi, voilà que je bute sur ces deux raisons. Peut-être qu'il y en a qui m'ont échappé. On va voir tout à l'heure. Et moi, je vois deux raisons explicitement données dans les mots et les choses. Pour réserver au langage ce qu'il refuse à la vie et au travail, c'est-à-dire la force de constituer un être ou un rassemblement. La première raison est dite page 315-316. Et je la lis car elle me laisse perplexe. Cet éparpillement des langues, que j'appelais, ou ce que Foucault appelle, ce qu'il appelait la dispersion des langues. Cet éparpillement cet éparpillement impose au langage. Écoutez bien, parce que manifestement, il fait de ces mots. Oh non! Cet éparpillement impose au langage, sinon un privilège, du moins un destin qui apparaît singulier. C'est pas loin d'un privilège, un destin singulier. Sinon un privilège, du moins un destin qui apparaît singulier quand on le compare à celui du travail et de la vie. Point. Quand le tableau de l'histoire naturelle est dissocié, Vous vous rappelez, la biologie s'est constituée sur dissociation du tableau de l'histoire naturelle au 17e, c'est-à-dire en affirmant la dispersion des plantes. Donc en brisant la théorie continue. Quand le tableau de l'histoire naturelle s'est dissocié, les êtres vivants n'ont pas été dispersés, mais regroupés au contraire autour de l'énigme de la vie. Là, je réagis. Est-ce qu'une énigme peut regrouper ? Puisque le propre d'une énigme, ça me paraît laisser fondamentalement problématique la question du regroupement de la chose énigmatique, sinon elle ne serait plus énigme. En tout cas, les êtres vivants n'ont pas été dispersés. Pourtant, quand il analysait Dieu, et que j'ai repris, c'est pas ça, très important des mots et des choses, il nous parlait de l'hétérogénéité des plantes vives étudiées, dont il faisait l'acte fondateur de la biologie. Et l'hétérogénéité des plantes vives étudiées impliquait une dispersion des plantes. Je ne dis pas du tout que ce soit contradictoire, il nous dit là. Eh bien, les êtres vivants n'ont pas été, si vous voulez, complètement dispersés de la même manière que les langues l'ont été, mais ils sont restés groupés autour de l'énigme de la vie. Bien. Et il continue. Lorsque l'analyse des richesses est disparue, au profit de l'économie politique et de la diversité des modes de production, lorsque l'analyse des richesses est disparue, tous les processus économiques sont restés regroupés autour de la production. Tous les processus économiques sont restés regroupés autour de la production et de ce qui la rendait possible. Là aussi, il reste songeur. La production et ce qui la rendait possible, mais ce qui la rendait possible, c'était des conditions. Condition elle-même radicalement diverse et dispersée. Alors, c'est compliqué, ça. Donc, il nous dit, je ne cherche pas du tout à objecter, je cherche à vous dire mon état d'âme quant à ce sens. Il nous dit, je reprends, quand l'éparpillement s'impose au langage, c'est quelque chose de très particulier qui ne vaut que pour le langage. Car la dispersion du vivant, en revanche, n'empêchait pas la vie de rester groupée autour du dénigme de la vie. Et la dispersion des processus économiques n'empêchait pas l'économie de rester groupée autour de la production et de ce qu'il a vendu. Il continue. En revanche, lorsque l'unité de la grammaire générale, le discours, tel qu'il apparaissait à l'âge classique, s'est dissipée au profit de la diversité des langues et de la philologie comparée, alors le langage est apparu selon des êtres multiples, dont l'unité, sans doute, ne pouvait pas être restaurée. Sous-entendu, sauf par un tout autre mouvement qui allait la littérature moderne dans son décrochage avec la vie. C'est le premier texte formel que je vois à cet égard pour affirmer un privilège du langage. Et si j'essaie de le résumer, et croyez bien que ce n'est pas une... Là aussi, c'est une question que je pose, je n'y vois rien d'autre que c'est comme ça parce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que l'être du... Pourquoi est-ce que...